Microcité, une émission de l'école de journalisme de Grenoble, 16h30-17h sur Campus Grenoble 90.8.
Yara Zirba.
Bonjour et bienvenue sur Microcité, votre rendez-vous de l'actualité de vendredi. C'est un plaisir de vous retrouver, on est ensemble pendant une demi-heure. Au programme, on parlera du hashtag MeToo qui fête ses 5 ans demain. Ce mouvement a permis de libérer la parole autour des violences morales, physiques et sexuelles. Mais qu'est-ce qui a changé au niveau du traitement judiciaire depuis son apparition en France? C'est le sujet du dossier d'Adrien Michaud qui reçoit maître Véronique Pigeon tout à l'heure. Ne vous laissez pas tromper par le nom, les petites cantines ne concernent pas que les enfants. C'est toute une initiative de quartier qui invite au partage. Nino D'Albera a passé une journée dans la petite cantine de Grenoble. Reportage en fin d'émission. Il est 16h31 sur Radio Campus Grenoble 90.8. Tout de suite, le journal avec vous, Léa Sormeli. Bonjour Léa.
Bonjour Yara, bonjour à toutes et à tous. Les internes en médecine en grève aujourd'hui, des rassemblements organisés partout en France. Nous reviendrons sur leurs revendications dans ce journal. Nous parlerons aussi d'un décret qui souhaite interdire la publicité lumineuse la nuit. Et puis nous irons faire un tour à Grenoble, qui célèbre en ce moment la fête de la science comme d'autres villes françaises. Les internes en médecine dans la rue cet après-midi dans toute la France, un mouvement de grève nationale pour protester contre l'allongement de leurs études d'une année supplémentaire. Adam Benhamouda, en quoi consiste cette réforme et pourquoi est-elle contestée?
Le gouvernement veut en effet créer une quatrième année d'internat pour les étudiants en médecine, une année supplémentaire qui serait consacrée à des stages ambulatoires pour mieux préparer les futurs médecins à exercer en cabinet. Et c'est ce qui provoque la grogne des étudiants et des syndicats. Ceux-ci dénoncent une réforme qui vise à instrumentaliser les médecins en formation pour régler les problèmes des déserts médicaux. Ils pointent également du doigt l'absence de concertation sur le sujet. Leur revendication est sans appel, le retrait pur et simple de la mesure. De nombreux médecins ont apporté leur soutien à leurs futurs collègues. Certains d'entre eux prennent part aux manifestations. La réforme a tout de même été validée cette semaine à l'Assemblée nationale par la Commission des affaires sociales. Elle doit être incluse dans le budget 2023 de la Sécurité sociale.
Merci Adam. Un accord trouvé entre la direction de Total et les syndicats annonce à la mi-journée de la CGT, il prévoit une hausse des salaires de 7% en 2023. Malgré cet accord, la grève est reconduite sur l'ensemble des sites de Total. La ministre Elisabeth Borne a noté des signes d'amélioration dans la pénurie de carburant. Une station-service sur trois connaît toutefois toujours des difficultés. Les TER et les cars interurbains gratuits en Auvergne-Rhône-Alpes, une mesure exceptionnelle en réponse à la pénurie de carburant. Elle prendra effet à partir de demain matin jusqu'à dimanche soir. Grenoble plongée dans le noir demain soir, dans le cadre de l'événement Le Jour de la Nuit pour sensibiliser à la pollution lumineuse. Dans le même temps, depuis vendredi dernier, les enseignes et les publicités lumineuses doivent être éteintes entre 1h et 6h du matin. Un nouveau décret qui renforce celui de 2012, appliqué par seulement 6% des villes en France. Reportage de Juliette Murie.
Les commerces et les établissements risquent une amende de 1 500 € par publicité si la règle n'est pas respectée. L'entreprise de parfumerie où travaille Achid à Grenoble trouve que c'est normal.
C'est une très bonne chose si on demande à tout le monde de participer et de faire des économies d'énergie. Après nous, c'est vrai qu'on joue déjà le jeu depuis plusieurs mois, voire années, où arrive une certaine heure, dès que le magasin est fermé, les panneaux s'éteignent automatiquement et on les rallume le lendemain matin.
À partir de l'été prochain, les écrans publicitaires présents sur les abribus, les arrêts de tram ou dans les gares et les stations de métro devront eux aussi être éteints, à l'exception de ceux qui sont en service entre 1h et 6h, une mesure insuffisante pour ces deux habitantes.
Pour le coup, je trouve que c'est pas assez, en fait. Je pense qu'ils devraient interdire toutes les publicités lumineuses parce que ça sert à rien.
Surtout que la nuit, il y a quand même beaucoup moins de gens qui déambulent dans la ville, donc ça fera pas non plus une grande perte.
Oui, mais voilà, l'éclairage de ces panneaux apporte aussi une certaine sécurité, comme l'explique Sylvain Laval, président de la mobilité urbaine de la ville.
Nous avons aussi des usagers des réseaux de transport en commun qui nous disent ne pas se sentir en sécurité le soir et que cette lumière rassure.
En un an, un écran publicitaire d'un arrêt de bus consomme en moyenne la même quantité d'énergie qu'un foyer pour l'éclairage et l'électroménager.
On commémore aujourd'hui les 2 ans de la mort de Samuel Paty. Un hommage lui sera rendu dans les établissements scolaires. Un triste anniversaire qui intervient dans un contexte d'inquiétude autour du respect de la laïcité dans les écoles. Selon le ministère de l'Éducation nationale, 313 signalements pour port de signes religieux ont été effectués le mois passé. Le groupe Danone annonce son départ de Russie. Le géant de l'agroalimentaire prévoit de céder le contrôle de sa production de produits laitiers pour ne garder que celle de la nutrition infantile. Le groupe avait jusqu'à présent assumé sa présence en Russie pour répondre aux besoins des populations civiles. La Russie ordonne la réparation du pont de Crimée avant le 1er juillet 2023. Il avait été partiellement détruit lors d'une explosion la semaine dernière. Moscou accuse l'Ukraine d'en être à l'origine. Ce pont qui relie la Crimée à la Russie est crucial pour le ravitaillement des troupes russes en Ukraine. Une alliance de la droite en Suède, les conservateurs, les chrétiens démocrates et les libéraux annoncent avoir trouvé un accord pour former un gouvernement. Nouveau gouvernement qui a présenté un plan pour construire des réacteurs nucléaires dans le pays. Un vote pour choisir le Premier ministre aura lieu lundi. Le ministre britannique des Finances limogé un mois après son entrée en fonction. Le pays était plongé dans une grave crise politique et financière depuis la mi-septembre, en cause des mesures budgétaires prises par le gouvernement contestées par la population. La première ministre Liz Truss doit s'exprimer dans l'après-midi. La science à l'honneur en France. La fête de la science bat son plein pour cette 31e édition. Au programme, des conférences, expositions et autres ateliers sur le thème du changement climatique. L'occasion pour les visiteurs d'en apprendre davantage et de changer leurs habitudes. Et les élèves du collège, la salle Aigle de Grenoble, se montrent enthousiastes.
On a appris à voir les types de graines avec leur poids. C'est cool de pouvoir faire des choses que j'aurais pas fait au quotidien. Je me serais pas levé un matin en me disant je vais mesurer le poids des pois chiches.
Moi j'ai appris aujourd'hui un peu de choses sur le recyclage et il fallait qu'on trouve une langue extraterrestre.
J'ai vu différentes manières de travailler les maths, un aspect plus ludique et plus recherché que dans un cahier.
C'était cool vraiment, ouais. C'était une bonne heure entre potes.
La fête de la science est ouverte à tous, vous avez jusqu'à lundi pour en profiter. La liste complète des événements est à retrouver sur fetedelascience.fr. En sport, début de la 11e journée de Ligue 1 de football ce soir. Rencontre entre Strasbourg et Lille à 21h, dimanche, place au classique entre le PSG et l'OM.
Merci. Merci Léa, vous revenez en fin de l'émission pour le rappel des titres. Après une courte pause musicale, Adrien et Michaud nous en parlent du hashtag MeToo qui fête ses 5 ans demain. A tout de suite.
Mais tu te vois où dans 10 ans? Le temps avance, faut pas se tromper. Même si la route est glissante, elle sera belle si t'as tenté. Dans 10 ans je me loue une barque dans le ciel. Je surferai sur les nuages comme tu surfes sur ton tel. J'aurai largué tous mes problèmes dans l'océan. Ma vie sera le film où chaque jour est la séance. À la croisée des chemins on s'est perdu. Le destin joue dès notre futur. On a serré des mains qu'on ne verra plus. Le passé n'a connu que des ratures. Où on sera dans 10 ans qui le sait. La vie est un jeu où il n'y a qu'un essai. On met de l'espoir et du taf pour être fier un jour de ce qu'on aura laissé. Tu te vois où dans 10 ans? Comme si ma réponse importait. C'est pas pour être mes 10 ans, mais bois un verre à ma santé. J'aurais pu le faire, j'aurais pu tenter de me laisser faire, guider par le temps. Faire le nécessaire ou me laisser porter comme une goutte d'eau dans l'océan. J'aurais pu le faire, j'aurais pu tenter de me laisser faire, guider par le temps. Faire le nécessaire ou me laisser porter comme une goutte d'eau dans l'océan. Tu te vois où dans 10 ans? Comment avances-tu sans projet? Si tu me trouves réticent, c'est que pour faire il faut forger. C'était bien mieux avant, quand je profitais des jours. Les cheveux dans le vent, qui soufflant me rendait sourd. Très loin d'être innovant, on escaladait les tours. T'étais la source des rires et j'étais là pour ça. Je me vois où dans 10 ans? Derrière la barre à mon procès. Prouvant que le présent est seul coupable de mon passé. J'aurais pu le faire, j'aurais pu tenter de me laisser faire, guider par le temps. faire le nécessaire ou me laisser porter comme une goutte d'eau dans l'océan. J'aurais pu le faire, j'aurais pu tenter de me laisser faire, guider par le temps. Faire le nécessaire ou me laisser porter comme une goutte d'eau dans l'océan.
C'était dans 10 ans de Tioma, jeune étoile montante du pop originaire des Landes. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Vous êtes bien sur Radio Campus Grenoble.
Le dossier de la semaine.
Il est apparu il y a 5 ans, le hashtag MeToo a libéré la parole sur les agressions sexuelles, physiques et morales dans la société. Quelle a été l'évolution au niveau de la justice depuis son apparition en France? C'est le dossier de la semaine. Bonjour Adrien Michaud.
Bonjour Yara, nous recevons aujourd'hui Maître Véronique Pigeon, elle est avocate au barreau de Grenoble. Mais avant de commencer, Hugo Deschamps, MeToo, d'où ça vient et où est-ce que nous en sommes aujourd'hui?
Souvenez-vous, tout commence en 2017. Le New York Times publie une enquête qui révèle que le producteur hollywoodien Harvey Weinstein a agressé sexuellement de nombreuses actrices. Quelques jours plus tard, sur Twitter, l'actrice Alyssa Milano invite les femmes victimes de violences sexistes et sexuelles à répondre avec le hashtag MeToo. C'est la première fois que l'expression fait son apparition sur les réseaux sociaux. Le mouvement devient un vrai phénomène jusqu'en France, où le fameux Balance ton porc apparaît le 15 octobre, il y a quasiment 5 ans, jour pour jour. Depuis, c'est 54 millions de témoignages qui ont été publiés sur les réseaux sociaux. Rendez-vous compte, c'est presque 30 000 posts par jour. Acteurs, politiques, personnalités des médias sont dénoncés à l'appel. On se souvient de PPDA, Gérard Depardieu ou Nicolas Hulot, par exemple. MeToo a donc surtout permis d'élever les consciences sur les oppressions subies par les femmes dans la société, sans oublier la justice qui, de son côté, a mis en place de nouvelles lois pour mieux protéger les victimes.
Merci Hugo. Maître Pigeon, je me tourne maintenant vers vous. D'abord, bonjour.
Bonjour à vous.
Est-ce que le mouvement MeToo a obligé le droit français à changer ?
Alors, je ne sais pas si c'est le mouvement MeToo qui a obligé le droit à changer, parce que j'entends dans ce que vous me dites qu'il faut tout de suite voir deux aspects des choses. Il y a d'une part la loi qui, effectivement, peut être aidée par ce mouvement MeToo à changer, mais il y a aussi un autre aspect, c'est comment on applique la loi, c'est-à-dire comment la justice s'est emparée de ces changements législatifs et de ces changements de société.
Très bien. Et donc, si le droit a plus ou moins changé grâce à MeToo, l'appareil judiciaire fait toujours peur aux victimes. C'est ce que nous raconte une représentante du collectif féministe Nous Toutes 38. Je vous laisse écouter son point de vue sur la question.
On peut être très seul devant un appareil judiciaire qui nous dépasse. On sait aussi qu'aller porter plainte, c'est dur. On sait qu'on peut ne pas être écouté. Et on sait aussi qu'il peut très rapidement y avoir des non-lieux. Enfin, en fait, tout l'appareil judiciaire n'est pas... adapté à la réception et à rendre justice en fait aux violences sexistes et sexuelles. Donc moi je dirais qu'il y a cette première raison de base qui est c'est foireux, c'est violent et les victimes peuvent ne pas avoir envie d'y aller. Et on sait que la justice est à deux vitesses parce que pour certaines catégories de population, l'appareil judiciaire est aussi un danger quoi. Et puis la question qu'on se pose c'est est-ce que la prison c'est utile? Est-ce que ça fait changer les auteurs de violences?
Cette représentante du collectif féministe Nous Toutes 38 évoque les cas de non-lieu. En 2016 déjà, sur 32 700 plaintes traitées pour violences sexuelles, 73% ont été classées sans suite. Maître Pigeon, j'ai envie de vous demander, en 2022, où est-ce qu'on en est ?
Alors, les chiffres sont très très difficiles à avoir parce que le recueil, il y a plein de polémiques sur la façon dont on recueille les victimes. Moi, j'ai des chiffres qui sont ceux du ministère de la Justice, mais qui sont assez anciens. Et je rejoins tout à fait la personne que vous avez interviewée. C'est que le nombre... Déjà, il faut savoir, à peu près, il y a 200 000 agressions sexuelles, tout type confondu en France, à peu près. Il y a seulement deux personnes... victimes qui, de tous âges confondus, qui vont porter plainte. Là-dessus, effectivement, il y a 73% de plaintes classées sans suite, parce qu'il ne faut pas parler de non-lieu tout de suite. Le non-lieu, ça arrive après, si on arrive à avoir un juge d'instruction qui est saisi de l'affaire par le parquet. Et puis après, il y a deux personnes sur 10 seulement mises en cause qui sont condamnées pour viol, les viols uniquement. Donc ça veut dire que sur 200 000 personnes, il y a peut-être, j'avais calculé avec une de mes clientes, ça tombe à 4,4% d'auteurs qui sont réellement poursuivis. Donc ça veut dire quand même qu'il y a 96% des plaintes qui n'ont aucune suite. Mais je crois que ça ne veut pas pour autant dire que les personnes qui viennent porter plainte mentent. Et ce en quoi je rejoins tout à fait cette représentante de l'association, c'est qu'effectivement, pousser la porte d'un commissariat ou d'une gendarmerie, c'est très, très difficile. Déjà, même en parler. Moi, ça m'arrive souvent que des femmes assez jeunes me parlent de ça. Et quelquefois même, je suis la première... À l'occasion d'une affaire un peu anodine, je suis la première à recevoir des confidences de ce type. C'est compliqué, c'est très 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 difficile. Hein.
Et toujours par rapport à ça, on en parlait au début par rapport au développement du mouvement MeToo, de ce que ça a pu apporter. Est-ce qu'on a quand même vraiment ce côté d'avoir des lois qui sont passées depuis 5 ans qui ont pu aider les femmes à pousser la porte de votre cabinet par exemple?
Alors, de mon cabinet, peut-être, mais moi, je pense qu'il faut surtout pousser la porte du commissariat ou de la gendarmerie. Donc, moi, je ne peux que inciter les personnes. Alors, le mouvement MeToo a permis une libération de la parole, ça, c'est certain. Mais ça a fait naître aussi de nouvelles problématiques, à savoir surtout les problèmes de prescription. Parce que je pense à Familia Grande, où finalement, la justice, elle se heurte au problème de la prescription. Alors, effectivement, la loi s'est emparée de ça. Vous savez qu'il y a une partie une partie des collectifs, même des avocats, qui voudraient l'imprescriptibilité des crimes sexuels, enfin, des infractions sexuelles. Je pense que c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a plein de paramètres. Est-ce que ce n'est pas aussi par rapport aux autres crimes qui, eux, sont prescrits? Alors, ça permet effectivement toutes les nouvelles lois. On est passé à 30 ans, donc ça veut dire qu'une personne qui a subi un viol quand elle était mineure a jusqu'à ses 48 ans pour porter plainte. On a tout récemment, dans une loi de 2021, introduit un nouveau type de prescription qui est un genre de prescription en cascade, c'est-à-dire que s'il y a...
Glissante.
Voilà, vous le savez, prescription glissante. Donc tout ça, c'est assez intéressant, mais on va toujours se heurter au problème qui est celui pour lequel la prescription est instaurée dans toutes les matières pénales, c'est que la recherche des preuves, elle est difficile. Des témoins, vous savez, une femme de 48 ans qui vient dire qu'à 6 ans, elle a été violée par son père ou son beau-père, c'est particulièrement difficile à prouver. Alors, il faut saluer certaines initiatives, par exemple le parquet de Grenoble, maintenant, fait un questionnaire très strict, très organisé, pour justement essayer de recueillir le maximum d'éléments. Et je pense que ce type de questionnaire a ceci de bien, c'est qu'il n'y a pas encore si longtemps, j'ai vu des auditions d'une jeune fille mineure qui avait été violée par son beau-père. Donc la question ne se pose même pas. Il y a l'adulte et il y a la petite de 15 ans. Et on lui a demandé comment elle était habillée. Et on lui a demandé si elle était sûre que son beau-père était au courant qu'elle ne voulait pas de relations sexuelles. Moi, je trouve ça aberrant. Si ça anticipe peut-être une autre question que vous vouliez poser.
Ça anticipe la question, parce que là, on parlait donc de l'élargissement du droit, enfin du droit pénal. Et surtout, ça a été amené à partir de 2018, par rapport à la loi Schiappa.
Oui.
Et par rapport à ça, toujours, on avait parlé donc de cette prescription glissante et donc de cette imprescriptibilité que certaines associations voudraient arriver. Et donc, par rapport à ça, donc, on a votre point de vue. Et est-ce que donc, la loi Schiappa de 2018, qui a permis l'augmentation de toutes les lois, est-ce qu'elle n'a pas permis même un trop grand élargissement des lois sur tous ces thèmes-là, avec des peines qui peuvent être compliquées à juger chez vous, les avocats?
Je crois que la question, elle n'est pas dans l'élargissement de la loi. Je crois qu'elle est dans la question de comment on s'empare d'une loi et comment on est prêt à l'appliquer. Parce que vous pouvez faire toutes les répressions que vous voulez. Si au départ, vous n'acceptez pas qu'il y ait vraiment une infraction, ça ne sert strictement à rien. Donc, c'est toute la problématique de l'élargissement des lois, du corpus législatif. Est-ce que ça devient efficace si on ne change pas d'attitude dans les commissariats et d'attitude aussi chez les magistrats?
Et donc, est-ce que, par exemple, on en parlait tout à l'heure de cette anecdote sur cette petite fille et son père, est-ce que MeToo a permis à ce que les réflexions sur les tenues vestimentaires et sur les recherches, on va dire, d'incohérence dans la parole des victimes, est-ce que c'est révolu ou c'est toujours le cas ?
Moi, je ne suis pas dans un commissariat. Moi, je suis soit devant le tribunal, soit en face d'une personne qui vient enfin dire ce qu'elle vit. Donc, je ne peux pas répondre à cette question. Moi, à propos de l'imprescriptibilité, ce que moi je vois, c'est qu'un viol, une agression sexuelle, c'est un meurtre psychique. Hein. C'est donc toute sa vie, que toute leur vie, que certaines personnes peuvent porter ce qu'elles ont vécu dans l'enfance ou dans l'adolescence ou même dans leur vie adulte. Donc moi c'est ça qui m'importe et c'est ça que je veux faire, que je veux porter. Mais quant à l'imprescriptibilité, j'ai bien conscience des difficultés que ça pose. Maintenant, est-ce que ce qui est important, et justement MeToo, je pense, l'a permis, c'est de pouvoir parler. Ne plus garder cette plaie qui vous ronge et la garder secrète. C'est ça qui me paraît important.
Par exemple, vous avez prêté serment en 2001, donc ça fait 21 ans que vous exercez le métier. Et donc vous constatez cette libération de la parole. Est-ce que vraiment, en termes concrets, est-ce que vous avez des chiffres ou est-ce que vraiment vous vous rendez compte tous les jours ?
Déjà, heureusement, on n'a pas tous les jours des dossiers d'agression sexuelle. Maintenant, je vois qu'il y a quand même un changement parce que j'étudie la jurisprudence et effectivement, il y a des changements. Hein. Par exemple, dans le temps, il y a une vingtaine d'années, une relation sexuelle avec une fille qui était complètement bourrée, on va dire ce mot-là, c'était pas qualifié de viol et maintenant, oui. Et c'est juste parce qu'une fille qui a 4 grammes d'alcool dans le sang, elle ne peut pas consentir. C'est logique. Mais il faut du temps et des batailles judiciaires pour arriver à ça.
Et vous parlez donc du consentement. Est-ce que MeToo, c'est vraiment le catalyseur de cette question-là ? Le consentement, est-ce que c'est partie d'une des principaux axes de MeToo qu'a amené le mouvement lors de ces 5 dernières années ?
Alors moi, ça ne sera que mon avis personnel. Je crois que MeToo ne parle pas du consentement. MeToo parle des agressions qui sont commises par des hommes, puisque MeToo c'était ça, hein, sur les femmes, sans que ce soit demandé, voulu, et que ça reste secret parce que on est dans un milieu, bon, je parle du milieu du cinéma politique ou journaliste ou même dans la vie de tous les jours, sans qu'on ait donné son accord. C'est le côté prédateur des agresseurs qui est mis en lumière, ce que certains peuvent appeler la culture du viol et qui est une réalité, mais je pense pas que ce soit qu'une question de consentement. C'est vraiment une question de société et de rôle et de respect de l'autre.
Donc MeToo a prouvé qu'il y avait bien cette prise de conscience collective dans la société, justement de ces problèmes liés aux agressions sexuelles sur les femmes. Malheureusement, on a bien vu, chiffre à l'appui, qu'il y a une baisse des condamnations pour viol. Est-ce que finalement le traitement d'une affaire dépendra plutôt de la sensibilité d'un avocat ou d'un juge, justement, à ces questions-là ? Est-ce que ça peut avoir un impact ?
Non, alors... C'est pas la sensibilité. Je dirais que pour un avocat, c'est le travail. C'est-à-dire qu'il faut soutenir, mais il faut aussi exploiter les pistes, il faut interroger, il faut. C'est pas qu'une question de sensibilité. C'est une question de réalisme, d'accompagnement et puis de volonté. Mais malheureusement, on connaît des échecs qui sont vraiment très durs pour l'avocat, oui. Mais c'est surtout pour la personne qui a le sentiment que sa parole n'a pas été entendue. D'où l'intérêt, effectivement, de mouvements comme MeToo.
Merci beaucoup, Maître Véronique Pigeon. Merci d'être venue sur Microcité.
Merci
à vous. On vous rappelle que vous êtes avocate au barreau de Grenoble.
Le MeToo qui a obligé le droit à changer, mais c'est aussi comment la loi qui est appliquée, enfin, qui a changé aussi. Vous nous avez amené des chiffres poignants, comme par exemple le 2 sur 10 des auteurs qui sont mis en cause pour viol. Ça reste, même si ça a permis de libérer la parole, ça reste quand même des affaires qui sont toutefois difficiles à traiter, notamment pour le souci de la prescription. Le plus grand changement aussi, c'est ça reste du coup la loi Schiappa promulguée en 2018. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter l'interview et toute l'émission sur radiocampusgrenoble.org.
Microcité en direct jusqu'à 17h.
La solitude progresse en France. Plus d'un Français sur 10 en souffre, selon une étude de la Fondation de France de 2020. Face à ce phénomène, des restaurants participatifs émergent partout dans le pays. Depuis 2 ans, ce sont les petites cantines. Dans le centre de la capitale des Alpes, Suzanne et Sophie Fitt ont aménagé la petite cantine de Grenoble, ouverte en juin dernier. L'objectif, créer du lien social autour de la préparation et la dégustation d'un repas. Nino Dalbera s'est rendu à la préparation de l'un d'entre eux, mercredi matin.
En ce mercredi, les enfants de l'association Ma Chance Moi Aussi de Chambéry sont venus prêter main forte aux petites cantines de Grenoble. Cléa, 3 ans, s'occupe de la vinaigrette.
Et l'huile ?
Un.
Combien ?
Deux.
Deux ?
Non. Trois ?
Non, plus.
Tu comptes, Cléa ?
Trois. Quatre.
Sur la table d'à côté, les enfants épluchent les pommes de terre et les patates douces en compagnie de Jean-Luc, un des 560 bénévoles des petites cantines.
Moi je suis en arrêt de maladie pour le moment, donc ça me passe la vie. Et puis ce qui se passe ici, c'est de la convivialité. On peut discuter même avec des personnes qu'on ne connaît même pas. Et puis ça se passe super bien, quoi.
Si Jean-Luc s'occupe de la raclette aux pommes de terre, Sophie est au bac de lavage.
Voilà, donc on les lave un petit peu comme ça. L'eau est bien fraîche. Regardez comme ils sont beaux ces fruits. Il y a plein de couleurs. On va faire une super salade de fruits. Voilà, voilà. Et les raisins. Donc on a des prunes, des pommes, des pois et des raisins, des fruits de saison. Ça va être super.
Présidente des petites cantines de Grenoble, c'est voilà, elle qui a initié le projet avec Laure et Suzanne, présente elle aussi ce jour-là.
Les petites cantines, eh ben, c'est la fête des voisins tous les jours en fait. Donc on est là pour se rencontrer, on est là pour tisser du lien. On se rend compte que pour changer le monde de demain, en fait, la première chose à faire, c'est que les gens se refassent confiance les uns les autres. Et nous, on a décidé de le faire autour du repas. Donc ça veut dire que les gens, bah, ils viennent cuisiner le matin. Peu importe comment est fait la sauce vinaigrette, peu importe comment sont épluchées les pommes de terre et comment elles sont coupées.
Il y a à peu près combien de couverts tous les midis ?
Oh, on est à 25 couverts, 25-30 couverts. Ouais, non, c'est là, on va mettre toutes les tables, là. Hein. Donc... c'est chouette.
Une fois la cuisson de la raclette terminée et la table dressée, place à la dégustation. Mais avant, Suzanne rappelle les règles du repas.
Et puis on a une contribution libre. Pourquoi est-ce qu'on a mis en place une contribution libre ? C'est parce qu'on veut aller jouer la confiance jusqu'au bout. Se dire que chacun donne ce qu'il peut en conscience. Et on fait le pari que ça marche.
Côté visiteur, tout le monde est conquis par cette raclette aux deux pommes de terre.
Ah ouais, non, c'est préparé avec amour et tout, donc c'est super.
Déjà, rien que l'aspect de la cuisson, c'est un joli plat. Alors l'avantage de la cantine, c'est aussi rentrer dans l'esprit de famille. Donc là, c'est bien, c'est beau. Il n'y a plus de différence entre nous, on est comme une famille. Ouais.
Pour celles et ceux qui souhaiteraient découvrir les petites cantines, c'est ouvert du mardi au vendredi à partir de 9h30 pour les cuisiniers et midi à 15h pour les gourmands. C'est ouvert aussi le dimanche. Il est 16h58, petit rappel des titres d'actualité avec Léa Surmeli.
Début du procès à Malte de 2 frères soupçonnés d'avoir tué la journaliste Daphné Galizia. La grève reconduite sur l'ensemble des sites Total malgré un accord salarial et coup d'envoi de la 11e journée de Ligue 1 ce soir. Un point sur la météo maintenant, le ciel restera couvert à Grenoble et ses alentours. Quelques gouttes dans le nord du département, du côté de Vienne et de la Tour du Pin. Les températures resteront douces pour la saison, autour de 17 ou 18 degrés à Grenoble. Même chose pour Vienne et la Tour du Pin. Vous pourrez sortir vous balader ce week-end. Le soleil sera de sortie samedi et dimanche avec des températures autour de 22 et 23 degrés.
Microcité, c'est déjà fini. Merci de nous avoir suivis. On commence à prendre nos marques ici, l'équipe, et on remercie aussi la régie pour le travail. Donc, on vous donne rendez-vous vendredi prochain à 16h30 sur Radio Campus Grenoble. Allez, ciao!